Chose promise, chose due, je vous ai dit que nous lirions ensemble le passage sur la sagesse personnifiée dans le livre des Proverbes, passage qui a joué un grand rôle dans l'élaboration biblique elle-même de l'expression qui nous est donnée du mystère trinitaire et par la suite dans l'Église pour sa réception. Au livre des Proverbes, au chapitre 8, ce n'est pas le premier passage qui personnifie la sagesse, déjà au premier chapitre. Il y a des éléments importants dans ce sens. On a pu remarquer que de nombreux traits du ministère de Jésus, la manière qu'il a choisi de s'adresser au peuple, de paraître en public au sein d'Israël, semble s'être calqué sur ce qui est dit de la sagesse dans ces premiers chapitres du livre des Proverbes, y compris le tout premier. Jésus a montré qu'il s'identifiait à la sagesse. Dans deux évangiles synoptiques, les passages parallèles contiennent l'un la formule « la sagesse de Dieu a dit » et l'autre « je dis ». Jésus s'est identifié à la sagesse et c'est sans doute une des clés de l'interprétation des méthodes choisies par Jésus que cette identification. Jésus a vu dans ce qui est dit de la sagesse dans le livre des Proverbes comme un schéma qu'il avait à suivre pour se conformer à la volonté du Père. Au chapitre 8 se trouve le passage peut-être le plus théologiquement chargé de cette personnification de la sagesse. Et donc je lis à partir du verset 22 et je fais quelques commentaires au passage qui ont été anticipés dans quelques remarques faites précédemment. L'Éternel, le Seigneur Yahvé, m'a procréé, principe de sa voix, avant ses œuvres d'autrefois. Comme je l'ai dit, le verbe employé ici, qui a été traduit par le verbe courant pour créer en grec, il faut reconnaître d'ailleurs que ce verbe en grec n'a pas un sens quand même aussi précis que le verbe créer en français. Mais donc, elle a été traduite par créer de telle sorte que les Ariens, Arius, ses disciples, s'emparaient de ce verset pour faire de Jésus-Christ une créature dans sa préexistence céleste. Ce verbe n'est pas le verbe créer auquel vous êtes habitué du début de la Genèse. C'est un verbe qui a deux sens possibles, semble-t-il, principalement. Un sens très courant qui signifie acquérir, et un sens qui semble distinct, les spécialistes peuvent en débattre, qui serait le mieux traduit procréer. Non pas créer, mais procréer. C'est le sens que je pense mis en œuvre dès le chapitre 4 de la Genèse avec Ève, qui joue sur ce verbe, c'est-à-dire Cana. Lorsqu'elle nomme Cain, j'ai procréé un homme avec Cain. Cain, Cana, Cain. Je propose donc, je ne vais pas entrer davantage d'explications techniques, de donner plutôt ce sens-là au verbe ici. Donc j'ai procréé, excusez-moi, le Seigneur Yahvé m'a procréé, principe, prémisse, principe, c'est deux sens possibles. Ça peut avoir le sens de commencement temporel, mais ça a aussi le sens plus abstrait de principe. C'est le même mot qui est employé pour la crainte de l'Éternel, principe de la sagesse ou de la connaissance. Là, c'est le principe de sa voix, la voix très souvent, alors là c'est très fréquent dans l'Ancien Testament, c'est toute l'activité, c'est la manière de se conduire. Ici, la sagesse semble être présentée comme procréée en Dieu, par Dieu, comme le principe même qu'il met en œuvre lorsqu'il agit. Principe de toute son activité. C'est, je pense, la formule qui est reprise dans l'Apocalypse comme un des titres de Jésus-Christ, principe de la création de Dieu. Là, c'est le mot grec qu'on traduit le plus normalement par principe, qui peut très bien être une traduction du terme employé ici. Avant ces œuvres d'autrefois, nos traductions les plus anciennes ne trahissent pas le sens, me semble-t-il. De toujours, de l'éternité, j'ai été sacré ou fondu, c'est un mot qui évoque, semble-t-il, l'établissement. Là, une origine éternelle est affirmée. C'est le terme courant pour l'éternité. Avant le commencement, avant les fondements de la terre, ou les fondements, ou les... Oui, je pense que c'est encore le meilleur terme, les choses les plus anciennes de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Là, c'est un courant pour enfanter, pour l'enfantement par la mère, d'ailleurs. C'est une donnée de ces passages bibliques qui attribuent à Dieu un rôle procréateur, que des termes qui évoquent le rôle masculin et des termes qui évoquent le rôle féminin sont employés les uns et les autres dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Même si Dieu, à coup sûr, est nommé Père, 10 ou 100 fois plus qu'il est nommé mère, il est au-dessus de toute différenciation sexuelle, et les termes qui évoquent un enfantement par Dieu sont aussi employés dans l'Ancien Testament, et ici ce serait le cas. La sagesse n'évoque pas une mère qui serait distincte de Yahweh. Elle a été enfantée par Yahweh, donc quand il n'y avait pas encore les abîmes, quand il n'y avait pas de source chargée d'eau, avant les montagnes, avant que les montagnes soient implantées, avant les collines, j'ai été enfanté. Répétition du même verbe à la fin, nous avons une structure là d'inclusion en quelque sorte. Quand il n'avait pas fait la terre et les choses extérieures, et le début des poussières du monde, quand il a disposé les cieux, là, moi. Vous remarquez cette même expression, là, moi, que nous avons trouvée dans Ésaïe 48 ce matin, où c'était celui qui parlait mystérieusement, qui disait depuis le début de la chose, moi, là, moi. Là, c'est la sagesse qui affirme ce « là, moi ». Et je ferai encore une remarque à ce propos tout à l'heure, à la fin de ma lecture. Quand il a tracé un cercle sur la surface de l'abîme, probablement correspondant à la vision circulaire de l'horizon, l'horizon nous entoure et on semble le représenter comme un cercle. Quand il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, quand il a fixé les nuées en haut, quand il a consolidé les sources de l'abîme, il n'y a pas là le « il », simplement dans la consolidation des sources de l'abîme, mais ça ne change pas le sens, semble-t-il. Quand il a disposé pour la mer son décret, et où la borne, la ligne qu'il a décrétée, ça ne peut pas dire de ces deux façons, et les eaux ne lui désobéiront pas. Quand il a fortifier les fondements de la terre. Le texte massorétique, nous avons parlé de ce texte que les massorètes ont fixé, porte quand il a tracé les fondements de la terre, mais il suffit de changer une lettre d'un dessin très très proche pour obtenir le sens fortifié, consolidé, rendu solide, et c'est ce qu'a lu la Septante, ce qu'a lu la version grecque. Donc, il me semble que c'est une correction qu'on peut accepter des manuscrits plus tardifs hébraïques. Mais bon, c'est une question là encore qui n'importe pas, grand débat théologique. Donc, dans toute cette œuvre de création, elle a été enfantée dès avant les œuvres les plus anciennes et elle était là au moment des œuvres fondamentales de la création du monde. J'étais à ses côtés maître d'œuvre. Trois mots dans l'hébreu, et le premier et le troisième en particulier sont très intéressants. Le premier, j'étais, c'est la même forme, avec la conjonction de coordination, mais c'est la même forme que le « je suis » d'Exode 3. Celui qui dit « je suis », ton nom, « je suis », « ehyeh ». Merci. C'est la forme que nous avons ici. Et je voulais peut-être signaler déjà, en hébreu et en grec, que le verbe être est très souvent sous-entendu. Quand il est employé, il y a toujours une insistance un peu plus forte. Donc, que la sagesse dise, c'est quand même assez fort. À ses côtés, aux côtés de Yahweh, maître d'œuvre, c'est semble-t-il le sens du terme. Certains veulent traduire nourrisson. En changeant légèrement la forme, les voyelles. Étant donné que nous avons le thème de l'enfantement qui joue un rôle important dans les premiers versets du passage, ils disent que ce serait mieux à sa place si nous avions le terme très voisin, non pas Amon, mais Emoun. Je ne suis pas persuadé par cet argument, je pense qu'il vaut mieux en rester au texte. Tel qu'il nous a été légué, car c'est une fonction dans la création, dans l'œuvre de création, qui est assignée à la sagesse, me semble-t-il, dans ce passage, et aussi dans les chapitres environnants. Il a tout créé par sa sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, où la voyons-nous? Dans la façon dont il a disposé et fait fonctionner l'univers. Donc, maître d'œuvre, ce qui correspond, je pense, dans les reprises de cette même tradition de la sagesse, dans les passages que j'ai suggérés du Nouveau Testament, ça correspond au rôle créateur. Tout a été créé par lui, comme pour lui. Sans lui, rien n'a été fait de ce qui est venu à l'existence. Participation à l'œuvre créatrice de la sagesse, qui prend le nom de Logos, dans les passages du Nouveau Testament. Donc, J'étais à ses côtés maître d'œuvre. J'étais délice, jour après jour. La sagesse est l'objet des délices. En lui, j'ai mis toutes mes complaisances. C'est un terme qui évoque les délices, la joie, le plaisir. Et j'étais donc délice pour Yahweh, évidemment, jour après jour. Jouant devant lui en tout temps. M'amusant, jouant, m'ébattant, une traduction. Jouant dans le monde de sa terre. Et mes délices avec les enfants des hommes. Avec les fils d'Adam, les humains. Extraordinaire final de ce passage, à propos du rôle médiateur de la sagesse. La sagesse fait les délices de Dieu et elle fait ses délices de l'humanité. En utilisant les mêmes mots, le texte suggère ce rôle de trait d'union, c'est en participant à la sagesse de Dieu, en recevant l'enseignement de la sagesse de Dieu, que nous sommes introduits dans la communion de Dieu. Nous saisissons quelque chose de son œuvre et de son intention. Nous nous accordons avec lui d'une manière spirituelle, et ainsi la sagesse joue un rôle de médiation. Cette pensée de la médiation, donc servie par les termes de la fin de ce passage, est aussi marquée, semble-t-il, dans la structure de l'ensemble. C'est le père Paul Beauchamp qui m'a fait voir ça. Le premier mot du passage, c'est Yahvé. Le dernier mot du passage, c'est fils d'Adam, les humains. Et juste au milieu, il y a le « là, moi ». Il y a le « moi » de la sagesse. C'est juste au milieu du passage, si vous comptez les mots. Tout a été composé pour que ce thème de la sagesse médiatrice, maître d'œuvre dans la création, mais bien au-delà, faisant participer sur le mode des délices Dieu et l'humanité à une même relation communielle, voilà ce que ce texte nous suggère. Si par la sagesse il nous est donné de communier avec Dieu, il vaut la peine d'essayer de saisir quelque chose par l'intelligence que Dieu nous a donnée en nous formant à son image, de saisir quelque chose de ce qu'il nous révèle de son être, de sa triunité. Certes, le mystère demeure incompréhensible, nous ne le maîtrisons pas. Il nous dépasse infiniment. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, Yahvé, notre Dieu. Mais il nous est donné de discerner quelque chose. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Et pour que nous les investiguions, ce n'est pas simplement un paquet que nous rangeons dans un tiroir. Nous sommes appelés à user d'intelligence pour recevoir vraiment ce que le Seigneur nous communique. Alors, comment essayer de nous mettre en route vers l'intelligence, qui sera toujours limitée, bien sûr, de ce mystère qui ne nous est pas révélé pour rien, mais justement pour que nous participions au délice de la sagesse de Dieu. Quatre façons principales, me semble-t-il, et que je vais essayer donc d'exposer. D'abord, en relevant des analogies, en les organisant, en voyant dans quel sens elles peuvent orienter notre esprit et même jusqu'à un certain point notre imagination. Il faut se méfier de l'imagination, mais elle aussi fait partie de l'image de Dieu que nous sommes. Et c'est une très grande richesse que l'imagination. D'ailleurs, l'imagination de l'artiste, y compris de l'artiste, qui peint les icônes, peut servir la gloire de Dieu. Alors, les analogies, d'abord. Ensuite, certaines réflexions sur la personnalité. D'autres réflexions, en troisième lieu, sur l'un et le multiple, que nous avons frôlé. Et finalement, le profit de lumière qui rayonne du mystère de la Trinité sur le reste de la doctrine, sur le reste de ce qui nous est révélé. Les analogies d'abord, dont saint Augustin donc, a été le grand découvreur et systématiseur. C'est une très grande partie de son influence historique, que celle qui remonte à son usage des allégories, des analogies, qui compose la deuxième grande partie de son traité de la Trinité. Son traité de la Trinité, grand ouvrage, qu'il a mis des années et des années à écrire d'ailleurs. Il était surchargé de travail. C'était épouvantable. Un évêque en Afrique du Nord, à son époque, il n'était pas seulement prédicateur tous les jours, il n'avait pas seulement une multitude de cas pastoraux à traiter, mais il était aussi le leader politique de fait pour la communauté. C'était un âge de chrétienté établi. Il avait des tâches diplomatiques qui l'entraînaient loin de sa petite ville, Annaba, aujourd'hui Beaune, au temps de l'Algérie française, tout à côté donc de la ville même de Saint-Augustin, Hippone. Hippone est à 3-4 km d'Annaba. Bon, j'étais aumônier militaire là, donc je connais un peu les lieux. Un travail prodigieux. Alors il a travaillé sur la Trinité des années et des années et des années. Mais il y a une première partie qui est plus dogmatique et surtout biblique. Il a vraiment d'abord travaillé sur la Trinité à partir des bases bibliques que nous avons tenté de faire ce matin. Et puis une deuxième partie, donc pour aider à l'intelligence de ce dogme, qui d'abord est tellement déroutant pour l'intelligence humaine, il a cherché toutes les analogies qui pouvaient être utiles. Alors, des analogies en général, on doit dire qu'elles sont toutes boiteuses, aucune n'est entièrement satisfaisante. Il n'y a rien dans la création qui puisse s'égaler à la combinaison de l'unité pure du Dieu un et à la trinité de ce personnage. Elles sont toutes boiteuses, toutes insuffisantes, soyons bien préparés à le reconnaître. Mais d'autre part, elles peuvent toutes être utiles. Elles débloquent certaines des difficultés que les humains éprouvent lorsque le mystère de la Trinité est énoncé. Et il m'est arrivé de voir que des analogies extrêmement pauvres ont été finalement décisives pour assister certains frères et sœurs devant la doctrine de la Trinité. Alors ces analogies extrêmement pauvres et simples, on les trouve dans les écrits des pères de l'Église déjà. C'est par exemple l'analogie de la racine, de la tige et du fruit avec la plante. C'est une analogie extrêmement pauvre. Elle habitue simplement l'esprit à comprendre qu'il y a des choses qui sont distinctes mais qui peuvent former un même tout. L'analogie est tout à fait boiteuse dans la mesure où la tige et la racine, par exemple, sont des parties différentes. Aucune d'elles n'est l'ensemble de la plante. La tige n'est pas toute la plante. La racine n'est pas toute la plante. Il n'y a pas parfaite identité de nature. Il n'y a pas. Donc, là, nous sommes très loin de la triunité divine. Dans la triunité divine, il est incorrect de parler de parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des parties. Non ! C'est Dieu tout entier. Dieu ne se débite pas en tranches, d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de parties. Donc, l'analogie est faible. Et pourtant, elle en a aidé certains. Elle peut être de quelque utilité. De même, la source, la rivière, la vapeur d'eau qui monte, ce genre d'analogie a été employé et il a pu être utile à certains. Tiré de la nature physique, il y a des analogies plus raffinées qui n'ont pas été proposées dans l'Antiquité, mais par un auteur américain relativement peu connu. Il a été président de Gordon College pendant un temps, mais qui s'appelait Nathan Wood.
Alors il en a toute une série, il a écrit tout un livre. Il a appelé Le secret de l'univers, où il ratisse un nombre très impressionnant d'analogies, plus ou moins intéressantes, mais il y en a deux que je vous signale comme particulièrement intéressantes, l'analogie de l'espace et l'analogie du temps. L'analogie de l'espace, c'est les trois dimensions qui constituent un seul espace. Impossible à confondre. Alors, nous sommes dans l'univers euclidien. Trois dimensions. Impossible de confondre la hauteur et la largeur. Donc vous avez une parfaite distinction, et pourtant, les trois constituent un seul espace, et tout l'espace est hauteur. Tout l'espace est largeur, tout l'espace est longueur. Non ? C'est une analogie qui est certainement meilleure, bien qu'elle soit un peu abstraite, qui est meilleure que celle de la tige du fruit. Intéressant. De même pour le temps, dit-il. Impossible d'ignorer la distinction entre passé, futur et présent. Et c'est aussi la totalité du temps qui se trouve passé, présent et futur, quand le temps est entièrement écoulé, en tout cas. Tout aura été futur, tout aura été présent, tout aura été passé. Donc, là aussi, trois dimensions qui vous donnent une totalité entière. Et il ajoutait, mais alors là, ça devient un peu discutable, il y a un ordre, là il y a un ordre, pas dans l'espace, mais pour le temps. Alors il voyait, lui, le futur comme le premier. C'est du futur, qui est comme la source du temps, que découle à travers le présent, le passé. Ça le conduisait, je pense, en théologie dogmatique, à une position de type oriental sur la procession du Saint-Esprit. Je pense que l'argument n'est pas suffisant, pour ma part. Mais, voilà, je vous signale cette analogie tirée de la nature physique que Nathan Wood avait développée. Cet opus-là, on a essayé aussi de ce caractère relativement abstrait. Il a développé des thèses sur la mesure, le poids. Il faut que je retrouve exactement ce qu'il en est. On est là, la mesure, le nombre et le poids. En se basant d'ailleurs aussi sur un texte du livre de la sagesse, il dit tout dans la création à sa mesure est nombré et a un poids. Et il y voyait une analogie de la Trinité. Donc vous avez un premier secteur d'analogie qui, sans doute, n'est pas le plus riche, mais qui sont certainement intéressants. Deuxième grand secteur des analogies, alors là c'est bien beaucoup plus important, celles qui sont tirées de la nature humaine. Étant donné que l'homme a été créé en image de Dieu, s'il y a des reflets de la Trinité divine dans la création, on peut espérer qu'ils seront particulièrement clairs, repérable dans la nature humaine. Et en effet, il y a deux grandes analogies qui me semblent suggérer dans l'écriture elle-même, c'est ce qui est le point le plus intéressant, qui sont tirées de la nature humaine. Il y a l'analogie qui est tirée de l'usage des mots père et fils. C'est l'analogie sociale. Par ces termes, le rapport des trois en Dieu est présenté comme analogue du rapport de personnes humaines constituant un même tout social. Il me semble qu'on ne peut pas nier que ce soit la suggestion associée à l'usage de ces termes. Alors il est même possible de plaider
que nous n'avons pas une analogie qui part de la situation humaine pour ensuite être appliquée au mystère divin en remontant, mais que nous avons plutôt la révélation du terme analoguant en Dieu, dont l'analogué se trouve dans notre expérience humaine. Étant créé à l'image de Dieu, nous avons une paternité qui est une image de la paternité divine en Dieu. C'est ce qui peut paraître impliqué dans le verset de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, qui dit « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute patria m'ont formé sur pater. » Toute patria, alors c'est un mot assez général pour famille, mais famille, vue à partir du Père. Je pense que nous pourrions quand même assez légitimement, bien que ce ne soit pas une traduction tout à fait littérale, dire paternité, de laquelle toute paternité tire son nom. Toute paternité dans l'ordre terrestre reflète, tire son nom, est un analogué de la paternité divine, de telle sorte que nous avons une analogie à considérer l'union paternité-filiation dans une société terrestre, la famille est une société, donc c'est une analogie sociale, nous avons quelque chose qui nous aide à saisir quelque chose du rapport des trois hypostases, personne en Dieu, constituant un seul Dieu. Évidemment, l'insuffisance de cette analogie, elle éclate au regard. C'est que sur la terre, un père et un fils, ça fait bien deux personnes, mais ça ne fait pas un seul homme, un seul être. Il y a une unité entre eux, mais ce n'est pas une unité stricte et entière, et en cela, c'est infiniment au-dessous de l'unité qui caractérise l'être divin. Il y a un seul Dieu, alors il n'y a pas un seul homme avec un père et un fils. C'est ça l'insuffisance de cette analogie. Mais il reste que c'est une analogie utile et qu'en employant les titres de père et de fils, l'Écriture nous engage sur cette voie vers l'intelligence du homme. L'autre analogie tirée de la nature humaine, c'est celle que le terme de logos en Jean 1 suggère, et aussi d'ailleurs le terme d'esprit pour le troisième. Le logos, c'est la raison, c'est la parole et la raison à la fois. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai suggéré tout à l'heure que le mot logos a été choisi, parce qu'il permettait de faire la synthèse du thème de la parole, parole créatrice dans l'Ancien Testament, et du thème de la sagesse médiatrice de Proverbe 8. Le verbe, le logos, unit le sens de sagesse, puisqu'il signifie raison, ce terme, et le sens de parole, révélation, puisque c'est aussi parole. Et voilà comment Jean a trouvé le moyen de faire une synthèse admirable. Aussi une synthèse d'ailleurs entre héritage hébraïque et pensée grecque, parce que le thème du Logos était très important. Donc, c'est une magnifique synthèse, un coup de génie inspiré par Dieu. Donc, le Logos, c'est le verbe intérieur, la pensée, la raison de quelqu'un qui pense. Chacun de nous a son Logos. Et pense par le moyen de son logos. Et l'esprit, c'est le souffle, c'est le même mot. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Bible Seconde, nous avons, j'étais d'accord, hein, c'était une insistance ou d'un autre, mais pour traduire assez systématiquement le mot dans l'Ancien Testament, souffle. Parce que c'est l'image première, l'image qui permet aussi de bien comprendre le dialogue avec Nicodème. L'esprit souffle où il veut, le vent souffle où il veut, c'est le même mot, vous voyez. C'est le souffle, c'est tout spécialement le souffle qui porte la parole. la parole et le souffle vont ensemble. Ils sont en droit, par exemple, d'ailleurs. Donc, lorsque nous avons ces mots de logos et de souffle, nous avons un modèle. Le Père est avec le Fils et l'Esprit, avec les deux autres de la Trinité, comme une personne avec son logos et son souffle, avec sa pensée intérieure et le souffle qu'il apporte. Nous avons un modèle suggéré par la Bible, et c'est ce modèle tout spécialement que saint Augustin a développé. On l'appelle parfois l'analogie psychologique de la Trinité. Il y a, a dit Augustin, donc, une image particulièrement réussie de la Trinité divine dans l'esprit humain, qui est dans une distinction irréductible et en même temps une union parfaite, mémoire, c'est-à-dire la profondeur de l'esprit qui se possède, connaissance ou intelligence, ça correspond au logos, et volonté ou amour. L'amour étant un mouvement de la volonté. Impossible de les séparer, impossible de les confondre. Et cela constitue l'esprit humain en image de Dieu. Voilà la thèse que saint Augustin a développée, qu'on appelle l'analogie psychologique, et qui a eu une influence très très forte après lui. Avec un certain ordre qui est impliqué, aussi dans l'analogie sociale d'ailleurs, l'analogie père-fils implique un certain ordre. Si on considère l'analogué de la société humaine, la volonté, par exemple, présuppose l'intelligence. Autrement, si on est un instinct brut, c'est une pulsion aveugle, ce n'est plus la volonté. Pour que le vouloir s'exerce, il faut qu'il y ait une certaine connaissance et intelligence de la situation. Donc, il y a un ordre. Voilà ce qu'a argumenté Augustin et la tradition augustinienne après lui. Donc, deux analogies tirées de la nature humaine qui ont une caution biblique et qui sont riches, intéressantes. Alors, il y a ces deux-là. Comment traiter leur dualité? Je suggère, alors là, c'est plutôt ma proposition, je suggère que nous avons besoin des deux et que nous avons à les utiliser concurremment. En gros, très, très en gros, bien sûr. Après Augustin, c'est l'analogie unipersonnelle, psychologique, qui a été mise au centre, qui a déterminé la pensée des théologiens trinitaires. L'analogie sociale a été pratiquement laissée de côté au long du Moyen-Âge. D'où un accent sans doute excessif sur l'unité divine, par opposition, après Augustin, à la Trinité, au principe de la pluralité. Ces choses-là se sont renversées assez récemment. Se sont renversées principalement depuis les années 70-80, ou 70-80. Depuis, c'est l'analogie sociale qui a les faveurs de nombreux théologiens. Quelqu'un comme Moltmann, par exemple, la glorifie. Et plusieurs ont dit, plusieurs dans le champ des études, ont dit « Attention, il y a des trithéismes qui menacent là. » Il a dit « Oh non, mais finalement personne n'est trithéiste. » Et voilà un peu comme a répondu Jürgen Moltmann, le théologien allemand, parmi les plus fameux du XXe siècle. La deuxième partie du XXe siècle. Ces dernières décennies, c'est l'analogie sociale, parce que le pluralisme est à la mode, qui a largement prédominé. Bon, je me suis trouvé un petit peu à la charnière. J'ai été fort influencé dans mes études aux années 60 par un livre qui critiquait la tendance unitaire trop forte de la tradition. Donc j'ai essayé d'y remédier dans mon enseignement. Mais depuis les années 80, je trouve qu'on va beaucoup trop loin dans l'autre sens. Et que c'est l'unité divine, le monothéisme qui est atteint, et qui est un ingrédient décisif de la doctrine trinitaire, et bien biblique. Moltmann est de ceux qui disent panenthéisme, et qui refusent même le mot monothéisme. Donc, je pense que là, il y a vraiment un basculement du mauvais côté. Et ce que je suggère, c'est que nous avons besoin de ces deux analogies, qui ne sont que des analogies, comme des modèles par lesquels nous approchons du mystère trinitaire. Nous pouvons parler de Dieu comme d'une société, Père, Fils, Esprit, comme d'un seul individu avec la différenciation interne de son intelligence, de son verbe intérieur et de sa volonté, son souffle, mais nous devons sans cesse penser à l'autre quand nous utilisons l'un des modèles. Les équilibrer l'un par l'autre pour viser la perfection de l'unité et la perfection de la différenciation en Dieu. C'est de cette façon que je suggère ces analogies le plus utile. Et j'associe à cela alors une réflexion que j'ai trouvée chez des théologiens catholiques, chez Teilhard Chardin d'ailleurs aussi. Je pense que je l'ai rencontré d'abord chez lui. Il y a une disposition dans la réalité créée qui est très intéressante et qui peut nous aider, pas plus qu'une aide, hein, mais nous aider à voir à quel point le mystère de la Trinité est un mystère d'harmonie, un mystère qui est clair. Non pas un mystère qui doit gêner la raison, mais qui lui permet de s'épanouir. Alors que, spontanément, pas mal de gens sont tentés de penser que c'est ou unité ou pluralité, qu'il faut jouer l'un contre l'autre. Si on observe la réalité créée, et si on monte la hiérarchie des êtres créés, car il y a une hiérarchie que le premier chapitre de la Genèse suggère déjà, on s'aperçoit qu'au contraire, le degré d'unité et le degré de pluralité sont solidaires. Plus on monte, plus il y a d'unité et plus il y a de pluralité en même temps. Les deux ne sont pas incompatibles, ne sont même pas opposés l'un à l'autre, au contraire, ce sont solidaires. Bon, j'ai dit Teilhard de Chardin jusqu'à un certain point, je ne suis pas Teilhardien, hein, l'a observé et l'a formulé avec la loi de complexité-conscience, comme il l'a appelé. Plus on monte, plus il y a complexité, et en même temps conscience, ce qui veut dire centréité, unité. Alors, j'illustre d'abord en prenant un point de vue en quelque sorte individuel. Vous avez une pierre. Une pierre, elle n'est vraiment pas fortement différenciée. Il y a peu de pluralité interne dans la pierre. Elle a une certaine unité, mais cette unité est pauvre également. Si vous cassez la pierre en deux, ça lui fait pas mal, hein. Vous vous élevez de cet inanimé au vivant, à l'être vivant, un animal. Là, vous voyez une différenciation bien plus riche qu'à l'intérieur de la pierre. Les différents organes, qui doivent être différents pour bien fonctionner, et une unité qui est bien plus riche, marquée, que celle de la pierre. Vous montez encore d'un étage dans la hiérarchie des créatures avec l'être humain. L'être humain est plus diversifié intérieurement, plus différencié que l'animal. Une illustration de cela, par exemple, peut-être une analyse de l'instinct. L'instinct, c'est au fond un mix indifférencié d'intelligence et de volonté. Et ce qui se trouve dans l'instinct se trouve en quelque sorte déplié et différencié comme intelligence et comme volonté chez l'être humain. Donc, différenciation plus grande dans l'individu humain que dans l'individu animal. Et en même temps, aussi, unité bien plus grande. L'individu humain peut dire « je ». Il y a la conscience, la centralité de la personne qui n'existe pas chez l'animal. Donc, vous le voyez, on monte en degré d'unité et on monte en degré de complexité, pluralité en même temps dans la hiérarchie. Ça, c'est en considérant chaque fois un individu, une pierre, un animal, un être humain. Mais si vous prenez le point de vue social, le point de vue de la pluralité des individus, vous trouvez la même chose aussi. Ça n'a pas été toujours dit, mais j'apporte ce complément. Le tas de pierres, il a à la fois une pluralité pauvre et une unité pauvre. L'espèce animale, elle a une unité beaucoup plus grande que le tas de pierres. L'espèce animale a vraiment une unité et une différenciation bien plus évidente entre les animaux, les individus qui composent cette espèce. Et puis, le genre humain, je crois qu'il vaut mieux parler de genre là que d'espèce, une différenciation, diversité donc, bien plus marquée. Les individus humains sont irréductibles les uns aux autres comme les animaux ne le sont pas, avec une relation de face à face qui marque cette différenciation irréductible. Et en même temps, le genre humain a une unité spirituelle qui est marquée en particulier par le rôle de chef d'Adam et pour la nouvelle humanité de Christ, une unité spirituelle qui n'existe pas au niveau animal. Donc, de ce point de vue-là aussi, vous avez croissance de l'unité et croissance de la pluralité qui s'adhèrent ensemble. Alors, je pense que vous accepterez d'y voir une invitation à extrapoler. C'est pas une preuve, mais une extrapolation. S'il en est ainsi quand on s'élève dans la hiérarchie des créatures, on peut penser au degré suprême, ultime, absolu de l'unité, degré suprême, absolu de la pluralité, ensemble, en Dieu. Et on a le dogme de la triunité divine. Nous sommes encore dans le domaine des analogies, mais vous voyez comment on peut les faire travailler dans leur composition. C'est donc là une première façon de s'acheminer, si possible, vers une certaine intelligence du mystère révélé. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions à cet endroit.
Madame.
Oui.
Mais c'est la même personne. Ça soutient aussi leur.
Oui, je pense qu'on pourrait trouver des raffinements de ce genre aussi. Je n'ai pas exploré toutes les possibilités de ces analogies. Une des difficultés, je peux le signaler au passage, de l'analogie sociale de la Trinité avec Père et Fils, c'est que la tentation est grande de se mettre à parler du Saint-Esprit comme de la mère. Or, la Bible ne suggère rien dans ce sens. Et je crois que c'est une voie qu'il vaut mieux ne pas pratiquer. Je le signale au passage. La tentation est très forte du côté des féministes aujourd'hui, des théologies féministes, parce que le mot « esprit » en hébreu est du genre grammatical féminin. Alors, on en profite. Mais je pense que la voie nous est barrée par le fait que le mot du Nouveau Testament, non seulement n'est pas du féminin, il est neutre, le mot esprit, pneuma, souffle dans le Nouveau Testament, mais dans certains passages, ce sont des pronoms masculins qui sont utilisés avec lui. Alors s'il y avait vraiment dans l'Écriture la volonté de suggérer une féminité du Saint-Esprit, je pense que nous aurions alors plutôt des pronoms féminins. Avec le genre neutre du mot pneuma en grec, c'eût été possible. Or, c'est le masculin qui est choisi, jamais le féminin, dans le Nouveau Testament. Alors, il me semble que nous nous détournons de la Bible si nous allons dans ce sens. Je signale que l'ex-franciscain, parce qu'il a été exclu, brésilien Leonardo Boff, qui a eu une barrière à partir avec les censeurs du Vatican. Boff a une théorie extrêmement bizarre dans son livre « Trinité des sociétés », un titre significatif, il privilégie l'analyse sociale. Il voit l'Esprit-Saint incarné en Marie. Il unit la piété mariale avec ses théories, avec une certaine note féministe sur le Saint-Esprit. Je crois que ça montre bien à quel type de divagation de telles réflexions peuvent conduire. Alors soyons très sobres à cet égard. Donc premier volet dans cette recherche d'intelligence, c'est celui sur lequel j'ai développé le plus, j'ai répondu plus brièvement sur les autres points. Deuxième voie, une voie de réflexion sur ce qu'implique la personnalité. Il ne semble pas y avoir d'autre option. L'ultime est personnel ou il est impersonnel. Les pensées de type panthéiste, et le panthéisme, j'ai dit, est déjà un panthéisme qui n'ose pas tout à fait dire son nom, sont forcés de privilégier l'impersonnel. Au bout du compte, c'est une énergie qui vibre au fond du monde. Il y a un certain attrait de cette conception qui privilégie l'impersonnel comme ultime. Car vivre comme une personne, c'est fatigant. Ça veut dire assumer des responsabilités. Donc, nous voyons pas mal de nos contemporains qui sont comme aspirés par un désir de dissolution dans cet impersonnel. Mais en tout cas, cela s'oppose à l'orientation dominante de tout ce que la Bible nous inculque. Il est sûr qu'au contraire, c'est un modèle personnalisant qui prédomine dans l'enseignement et dans l'éthique biblique. Et si le grand commandement, dans sa deuxième partie, en analogie de la première, c'est d'aimer le prochain comme soi-même, ça veut dire que le personnel se trouve au maximum, est valorisé. Et je pense quand même que pas mal de nos contemporains admettront aussi que le personnel, c'est la valeur supérieure à l'impersonnel. À quelles conditions ce qui est personnel peut-il être placé au sommet? Il faut que Dieu soit personnel. Si Dieu n'est pas personnel, alors il sera difficile de défendre la thèse selon laquelle le personnel est, même en éthique, une valeur suprême. À quelles conditions Dieu peut-il être personnel? Peut-on concevoir un Dieu qui ne serait qu'une seule personne? Ça semble très difficile. La réflexion sur la personne implique la relation. Être une personne, c'est rencontrer une autre personne. C'est sortir de soi dans la relation, c'est être capable d'alliance. Ou bien un Dieu personnel aurait besoin du monde comme partenaire pour accomplir le caractère personnel de son être. Mais alors à ce moment-là, ça signifierait que le monde est une extension nécessaire de Dieu, un complément nécessaire de Dieu. Dieu ne serait pas tout suffisant en lui-même, et il ne mériterait plus radicalement le nom de Dieu. Ou bien il faut qu'il y ait en lui-même cette relation d'alliance, de partenariat, de vis-à-vis. Voilà une réflexion sur la notion de personnalité qui paraît envisageable. Étant donné la révélation du mystère trinitaire, il est possible de dire, eh bien oui, Dieu est personnel parce qu'il est plusieurs personnes. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc la réflexion sur la personne a pu être utilisée comme élément pour s'acheminer vers une certaine intelligence. Et très étroitement associé, parce que finalement je crois qu'on ne sépare pas, il y a la question de l'amour. L'amour, c'est la relation voulue entre les personnes. La relation positive entre les personnes, s'il n'y a personne. Il est très difficile d'imaginer amour sans qu'il y ait personne. Et personne accomplie sans qu'il y ait amour. Or, Dieu est amour. Dieu est amour. Serait-il possible de penser Dieu amour sans cette pluralité en lui? De nouveau, ça semblerait extrêmement peu prometteur comme tentative intellectuelle. Et la révélation de la Trinité permet de dire, voilà, nous saisissons comment Dieu peut être amour en lui-même et demeurer libre à l'égard du monde. Parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a chez lui une vie d'amour qui circule parfaitement. Vous voyez comment la réflexion sur Dieu est amour peut servir à éclairer jusqu'à un certain point ce qui est dit de la Trinité divine. Je branche peut-être une petite remarque, surtout que ce qui a été dit tout à l'heure nous donne l'occasion d'une toute petite mise au point. On a parlé pour la relation des personnes s'aimant mutuellement de circumcession ou de péricorèse. Et ce sont des mots très à la mode. Alors, je vous les présente. Ces deux mots sont des mots synonymes. L'un vient du latin, l'autre vient du grec, simplement. Je vous ai dit, il y a ces deux types de vocabulaire qui sont en parallèle. La péricorésis, péricorèse néafrancisée, c'est cette circulation de la vie divine qui fait que chacune des trois personnes est entièrement dans les autres. Ce qui peut correspondre à l'union d'amour dans le vis-à-vis, mais dans un mouvement qui unit à l'autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule vie d'amour qui circule. Et c'est ce que dit le terme latin. Cessio vient du verbe qui signifie avancer. Et circum, implique l'idée d'un mouvement circulaire. Ce qui correspond, je pense assez bien, c'est une image qui nous dit quelque chose de la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors il y a trois choses à dire principalement. C'est une vérité qui correspond à ce que la Bible nous enseigne. Je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. C'est pourquoi quiconque m'a vu a vu le Père. Voilà ce que Jésus dit en Jean 14, vous vous rappelez. Cette inhabitation dans le mouvement, c'est symbolique de dire mouvement perpétuel de la vie divine, c'est bien un élément de la révélation trinitaire selon le Nouveau Testament. Ça a été reconnu par les pères de l'Église relativement tôt, c'est présent dans l'œuvre des pères cappadociens que j'ai nommé tout à l'heure, au IVe siècle. Attention, le mot lui-même n'est pas employé par eux dans ce sens. Et là, bien des gens semblent l'oublier aujourd'hui, ils parlent des Cappadociens et de la Péricorèse. Il a fallu attendre 3 siècles après eux pour que le mot Péricorésis soit employé pour la première fois pour cette circulation de la vie divine entre les personnes de la Trinité. Donc, ce n'est pas un terme technique de la théologie grecque de la Trinité dans tout son premier âge. C'est tardivement seulement qu'il est introduit. Et cela me donne l'occasion de dire qu'il y a aujourd'hui une thèse qui circule, qui, je crois, est mal fondée, et qui est liée à ce que j'ai dit il y a un instant de Moltmann, certains auteurs disent ou font comme s'ils pouvaient dire, mais souvent ils le disent carrément, hein, que l'unité divine est l'effet de la périchoresis, de la périchorèse. Il faut partir des trois et puis dire qu'ils sont tellement les uns dans les autres, dans cette inhabitation mutuelle, qu'alors ça fait un seul Dieu. Je crois pouvoir prouver que ce n'est absolument pas l'enseignement des pères cappadociens, qu'ils affirment très fortement que l'unité vient de l'unité d'essence, qu'ils sont un seul Dieu. Et la périchorèse est plutôt un effet. Ce n'est pas la cause. Et j'ai argumenté déjà que la périchorèse ne pourrait pas suffire à faire un seul Dieu. Trois dieux compénétrés, qui s'interpénètrent, mais pas un seul Dieu. Et d'ailleurs, la vérité de la périchorèse, dans l'Écriture, s'emploie aussi pour le croyant avec Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc, attention, le mot périchorèse ne suffit pas. Et il faut dénoncer chez ceux qui se contentent de l'analogie sociale et qui n'insistent que sur la pluralité, cette fausse solution quant à l'unité du divin. Et greffé là-dessus, c'est pour ça que je dis une petite mise au point, certains ont prétendu que ça voulait dire une danse. La danse très populaire dans la culture d'aujourd'hui. Alors beaucoup de gens sont tellement heureux de penser qu'il y a une danse des personnes de la Trinité. C'est fondé sur une simple erreur de grec. Des gens se sont imaginés que la racine corps dans périchorèse, c'est la même racine que dans chorégraphie, qui évoque la danse. Mais c'est une simple erreur lexicale. C'est une autre racine. Ce n'est pas celle-là. Et nulle part dans l'Écriture, la danse n'est suggérée pour les personnes de la divinité, ni rien. Donc, laissons de côté ceci. Hein. Ce n'est pas fondé. Mais il y a circulation de la vie divine, inhabitation des personnes entre elles. Question à ce stade ? Oui ? Attendez, j'entends pas tout à fait tous les mots que vous prononcez. Dans le symbole des apôtres, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pardon. Dans le symbole des apôtres.
Je disais que dans le symbole des apôtres, qui est une des résolutions du Concile de Nicée, suite à la controverse arienne, on confesse c'est une foi trinitaire, où il y a l'idée de la co-éternité, la co-substantialité, les trois hypostases,
oui,
et cette économie trinitaire. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, ou s'est passé le vendredi saint,
oui,
la mort du Christ? Est-ce que cette mort a affecté l'unité divine, cette unité d'essence, oui, ou pas?
Oui, alors en fait, c'était la question posée à la fin de la matinée, à laquelle effectivement je n'ai pas répondu, j'ai entamé tout de suite l'exposé. Et puisque la question ressurgit maintenant, c'est le moment en effet de dire quelques mots de ce qui s'est passé à la croix et de la parole: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, c'est dans le symbole de Nicée-Constantinople que l'affirmation de la consubstantialité, de l'unité parfaite des trois personnes, les trois hypostases, est donnée. Comment concilier avec la parole de la croix ce qui s'est passé à la croix? Avec l'orthodoxie classique, j'estime impensable, en termes bibliques, en restant fidèle à que l'Église a tiré de l'Écriture et qui, je crois, a été tiré droitement, d'imaginer une déchirure de la Trinité, une rupture, un clivage dans l'être divin. Je pense que employer un tel langage est irresponsable, que c'est quelque chose qui s'oppose radicalement à ce que l'Écriture nous révèle de Dieu et que rien n'exige que nous pensions de cette façon. En ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, sa souffrance à la croix, l'enseignement classique, qui, je pense, de nouveau, repose bien sur la Bible, c'est que pour mourir en subissant le châtiment de nos fautes et ainsi nous racheter, il est devenu homme. C'est pour cela même qu'il est devenu homme. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? C'est le titre du grand ouvrage de saint Anselme de Canterbury, aux alentours de l'an 1100. Comme Dieu, il ne peut pas mourir. Et il s'est fait homme pour pouvoir mourir, parce que c'était la façon de nous sauver. Il a acquis la possibilité d'ainsi payer pour nous en acquérant cette nouvelle nature pour lui qui a été la nature humaine, sans perdre la nature divine. Donc, à la croix, il meurt selon les possibilités de sa nature humaine. Alors, il ne faut pas dire sa nature humaine meurt. Ce n'est pas une nature qui meurt. La nature, c'est un ensemble de propriétés. C'est la personne. Mais la personne, grâce à ses propriétés qu'elle a acquises, c'est la personne du Fils, pas du Père. Ça a été dénoncé comme une hérésie dans les premiers siècles, l'idée que le Père aurait souffert ou mort, ou serait mort. Ce n'est pas le Père, c'est la personne du Fils qui, pour pouvoir mourir, a pris l'humanité et, conformément aux possibilités de cette nature humaine, meurt. Donc, pour nous sauver. Cela veut dire que, dans sa nature divine, il ne meurt pas. Dans sa nature divine, c'est sa personne qui meurt grâce aux possibilités de sa nature divine. De sa nature humaine, excusez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un retentissement de l'événement dans sa nature divine, ça c'est très mystérieux. Origène même a osé parler d'une douleur du Père, à ce propos. Je ne crois pas que nous ayons à l'écarter nécessairement, nous ne pouvons pas dire grand-chose, nous ne savons pas. Le fait que les deux natures soient unies en la personne du Fils peut impliquer que la nature divine, selon laquelle on ne meurt pas, soit cependant affectée. Je ne l'exclus pas, mais il faut bien maintenir que ce qui est mort est expérimenté par le Fils, par la personne du Fils, selon sa nature humaine. Ça, c'est le premier élément de ma réponse à la question posée. Le deuxième élément concerne plus spécialement le cri que Jésus a poussé à la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il me semble qu'il n'y a aucune raison suffisante pour l'interpréter comme l'indication d'une déchirure de la Trinité. Ce n'est pas non plus un cri de désespoir de Jésus. Ceux même qui attribuent sous sens au cri selon Matthieu reconnaissent que dans la version de Luc, ce n'est pas sous sens. Mais ils se croient plus sages que Luc en disant que c'était le sens. Parce que dans le texte de Matthieu, c'est ainsi que ça nous apparaît. Je trouve que ça montre à quel point leur méthode est fragile en l'affaire. Que ce ne soit pas un cri de désespoir du Seigneur Jésus, me semble ressortir du fait que c'est une citation biblique. Jésus cite le psaume 22, qu'il connaissait bien sûr par cœur, comme les juifs pieux de son temps. Il cite le psaume 22, qui se termine par l'allégresse de la restauration et le témoignage dans la grande assemblée, la grande ecclésia, dans la traduction grecque, de ce que Dieu va faire. Et lorsque Jésus émet un tel cri, il ne peut pas ne pas avoir tout le psaume à l'esprit. Il prétend donc qu'il exprime du désespoir, que là il aurait succombé. Je pense que de nouveau ça n'a aucun fondement suffisamment solide. Mais quand même, s'il prononce ce cri, c'est qu'il correspond à une réalité pour lui. Alors, quelle est la réalité à laquelle ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » correspond? Ça demeure très mystérieux pour nous, mais je pense que cela correspond à son expérience vécue comme personne dans sa nature humaine, qui souffre. Jusqu'à ce moment-là, il a vécu toute sa vie en pleine communion avec le Père, dans la joie constante d'être en échange avec le Père. Aucun péché qui ne voilait interrompre cette communion. Depuis le sein de Marie, il a baigné dans l'expérience de l'amour du Père. Et sur la croix, il porte nos péchés. Sur la croix, il est l'objet de la colère de Dieu contre le péché qu'il porte. Ce qui veut dire que, quant à son expérience intime d'homme sur la croix, il ne sent plus cet amour du Père. Il est obligé de crier par la foi, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », mais il ne le sent plus parce qu'il subit le châtiment de nos péchés à notre place. Il n'est pas abandonné du Père, dans ce sens que le Père se serait retiré. Au contraire, 2 Corinthiens 5 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et c'est par l'Esprit éternel qu'il s'offre sur la croix. Donc, ce n'est pas une séparation dans l'être, mais c'est une expérience que réellement il vit. Alors que jusqu'à présent, le trésor de sa vie d'homme a été la communion avec le Père céleste, il ne l'a sans plus, parce qu'il est traité comme le transgresseur.
C'est pourquoi il l'appelle « Mon Dieu, mon Père ».
Peut-être, peut-être, oui. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire une citation biblique pour montrer que ça s'accomplit pour lui. Il exprime réellement son expérience. Mais ce n'est pas une déchirure de la Trinité. Voilà comment je tente d'approcher ce point qui est particulièrement mystérieux, hein, de la souffrance de Jésus.
L'expression « mon Dieu » signifie encore une appartenance.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
En fait, s'il y avait une distance, ce serait absolu ce pronom.
Oui, 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 je pense qu'on peut tout à fait le plaider. Oui.
Par ailleurs, Berthayet parlait du Saint-Esprit comme consolateur du Père qui se moment de la passion.
Là, je n'en sais rien. Troisième voie. Réflexion sur l'un et le multiple. Nous avons un peu frôlé cela, malheureusement je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup. Il semble que la pensée humaine ait été obligée tout au long de son développement de tenir compte de cette dualité de principes. Il y a de l'unité, il y a de la pluralité. Comment les concevoir ensemble? En général, l'un et le multiple ont été conçus comme les pôles opposés entre lesquels la réalité s'organise. Un grand dualisme de l'un et du multiple. Si l'un et le multiple sont ainsi deux principes séparés, absolus l'un et l'autre, au départ, on ne voit pas comment ils peuvent se composer. Je signale que le polythéisme est à cet égard d'une étrange myopie, d'une étrange insensibilité. S'il y a plusieurs principes premiers, indépendants les uns des autres, absolus, comment peuvent-ils être pensés ensemble ? C'est impossible, car il faut un élément commun pour que deux choses soient pensées ensemble, même pour être opposées l'une à l'autre. Nous apprenons à nos enfants qu'il ne faut pas mélanger les maîtres et les grammes, mais encore les maîtres et les grammes appartiennent quand même au même univers. Il y a quand même un élément commun. Mais si ce sont des principes absolument premiers des dieux, dignes de ce nom, il n'y a même pas d'espace commun Il n'y a rien au-dessus d'eux. Ils n'ont rien en commun s'ils sont absolument premiers, les uns et les autres. Donc, impossible de les penser ensemble. Le polythéisme est une ruine. Et ce que je dis du polythéisme montre la difficulté de penser ensemble l'un et le multiple. Il y a des pensées qui, ivres de la passion de l'unité, nient la réalité du multiple. Ça a été la plus grande audace de certains penseurs indiens, c'est pas tous, mais affirmant finalement que toute la multiplicité de l'expérience courante, qui ne pouvait pas nier, n'est finalement qu'une illusion, un effet de surface. Comme un tour de magicien. Le mot Maya, qui a été employé, est de la même famille étymologique que le mot magie dans notre langue. En sanskrit, c'est une langue indo-européenne, donc c'est une même famille. Toute la réalité sensible dans sa diversité n'est qu'illusion. Il n'y a qu'une seule réalité, et le sage comprend qu'il est cette réalité même. Tu es cela. Il paraît que c'est la maxime de la sagesse suprême, cette ligne qu'on dit moniste dans la pensée indienne. Tu es cela. Là où Dieu dit, moi cela, celui-là. Tu es cela, il faut que tu comprennes, n'importe qui que tu es, qu'il n'y a aucune distinction entre l'absolu et toi. Il n'y a que l'absolu. Toute différence n'est qu'illusion. Denis de Rougemont, le penseur suisse, Denis de Rougemont a un contraste extrêmement significatif entre cette pensée indienne et la pensée chrétienne. Sur ce point, il l'a bien saisi, parce que malheureusement, il n'a pas été fidèle à tout l'évangile, surtout dans son évolution. Mais la pensée indienne, c'est le soi seul en tout. Il n'y a que le soi majuscule, hein, absolu. Le soi seul en tout. Opposé à Dieu tout en tous. Toutes ces deux formules montrent le contraste et l'impasse de ce monisme qui résorbe tout dans l'unité, qui est obligé de nier contre l'expérience courante, contre les nécessités aussi du comportement quotidien, la multiplicité, la vérité du multiple. Ce monisme, entre autres, je signale, c'est un des aspects les plus sérieux, souvent ignorés de nos contemporains, attirés par ce type de pensée indienne, est incapable de faire une place à l'altérité du mal. S'il n'y a aucune différence au bout du compte, il ne peut y avoir aucune différence entre le mal et le bien. Le mal est résorbé dans cette unité indifférenciée. Ce qui veut dire que tout le problème du choix, tout le problème de la culpabilité, etc., tout cela, c'est finalement nié, repoussé sous le tapis. Mais la pensée d'une pure pluralité est aussi impossible. Je l'ai évoqué à l'égard du polythéisme, mais nous le voyons avec des pensées qui, aujourd'hui, on la cote sur le marché culturel. Il n'y a finalement aucun sens, il n'y a qu'une dissémination indéfinie d'éléments qui se renvoient les uns aux autres. La pensée déconstructionniste prend souvent cet aspect-là. Comment peut-on en parler s'il n'y a que cette pluralité désagrégante, indéfinie? Je pense que c'est aussi une impasse. Mais comment résoudre le problème de l'un et du multiple? La doctrine de la Trinité, et c'est ce que Cornelius Van Til a particulièrement mis en valeur, nous révèle que l'unité et la pluralité sont également premières en Dieu. Non pas comme deux principes opposés, qui ne pourraient pas donc s'unir, mais sont dans la Trinité, ensemble, fondation première et ultime de toute chose. Il y a unité et il y a distinction réelle qui fonde la possibilité d'une distinction réelle entre Dieu et sa création. Car s'il n'y a pas distinction, ultimement, en dernière analyse, en Dieu même, il n'y a aucun fondement pour une vraie distinction, donc pas non plus entre Dieu et le monde, entre Dieu et la création. La notion de création se dissout. Comme aussi la possibilité de distinguer le bien et le mal. Mais comme il y a en Dieu distinction absolue entre les personnes, elles ne se confondent absolument pas, et unité parfaite, nous avons la fondation en lui et d'une véritable unité de l'univers et d'une distinction authentique entre Dieu et le monde, entre Dieu et la créature humaine et aussi d'autres créatures de type angélique, et donc aussi la possibilité du mal comme leur choix contraire à la volonté de Dieu sous la souveraineté de Dieu. Vous voyez comment ces vérités sont solidaires les unes des autres. Je pense qu'il y a là un profit de sens que nous pouvons considérer comme très précieux lorsque nous pensons à la Trinité. Et alors, quatrième façon, je vais en parler aussi assez brièvement, et puis j'espère qu'il va y avoir des questions de votre part qui nous permettront de compléter. Dernier schéma, la lumière que répand le mystère de lumière sur le reste de la révélation. Je pense qu'on peut dire carrément qu'il y a une discipline trinitaire que nous apprend l'étude de la doctrine lorsque nous pensons à d'autres sujets. Alors, je vais me borner à quelques illustrations, mais je pense qu'elles vont vous intéresser. Je crois que ce que nous révèle la doctrine de la Trinité, biblique d'abord, sur le rapport du Fils et de l'Esprit, permet une critique de l'illuminisme, qui a été une tentation permanente de la pensée chrétienne au cours des âges. Au nom du Saint-Esprit, on apporte de nouvelles révélations, on dit des choses de droite ou de gauche. À quoi ça correspond ? Ça correspond à une scission entre l'Esprit et le Fils. Au lieu de reconnaître que le Fils et l'Esprit sont un seul Dieu, et de telle sorte que l'Esprit est l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus, comme il est nommé dans le Nouveau Testament, on lui donne comme un coefficient d'indépendance à l'égard du Fils, de telle sorte qu'il introduit des révélations qui sont en marge de la révélation liée à la venue du Fils, qui est dans l'Écriture sainte. C'est ce que critique Karl Barth, et à mon avis là la critique est assez bien ajustée, à l'égard de développements qui ont tenu une grande place dans ce tout fort diversifié de l'orthodoxie orientale. Un mysticisme de la sophiologie, vous savez que le Saint-Esprit est appelé Sophie, la sagesse. Sainte Sophie à Istanbul, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une vierge demoiselle pieuse qui aurait été canonisée. C'est le Saint-Esprit qui est honoré sous ce nom-là. Mais c'est développé dans les divers courants de l'orthodoxie une culture de la relation au Saint-Esprit qui s'est largement coupée de la Bible, avec très très peu de références à l'Écriture sainte. Karl Barth l'a critiqué comme un effet de certains traits de la théologie trinitaire de l'orthodoxie. Vous voyez ce que j'appelle appliquer une discipline trinitaire à l'étude de certaines questions. À partir de ce qui nous est révélé de l'union et de la distinction du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une façon de traiter les questions. Et alors je viens à ce qui me semble être particulièrement intéressant pour notre situation d'évangélique au XXIe siècle, héritier de la Réformation et des réveils. Je pense qu'on peut dire que Dans cette perspective, la réformation magistérielle, la réforme de Luther et de Calvin, a été une réaction monothéiste et christocentrique, d'abord. Ça a été d'abord une réaction monothéiste. Ce qui a caractérisé la piété de la fin du Moyen-Âge, c'est une dispersion du divin. Tous les saints, ils sont appelés d'ailleurs les divins, hein, en latin c'est les divi, ce sont des êtres qui participent plus ou moins à la divinité. Une multitude de médiations. Et la réforme a représenté une recentration monothéiste. Sola gratia, par la grâce seule, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Vous voyez, tous ces slogans avec seul représentent ce qui est dans le mono de monothéiste. Il y a un seul Dieu, c'est de lui que tout vient, c'est à lui que tout doit aller, contre une dispersion qui caractérisait une certaine dégénérescence de la piété chrétienne. Mais en même temps, c'est un Dieu très fortement représenté par le Christ. La distinction du Père et du Fils est très importante. La piété de Luther et celle de Calvin sont très fortement christocentriques. Cela doit être souligné. Mais il y a quand même un petit déficit quant au Saint-Esprit. Alors on le remarque assez nettement chez Luther. Il n'est pas absent, mais il y a quand même relativement peu de place. Chez Calvin, c'est encore plus subtil. Je pense que Calvin, et on l'a honoré à cause de cela même, du titre de théologien du Saint-Esprit, chez Calvin, la place du Saint-Esprit dans l'économie du salut a été très bien identifiée. Le Saint-Esprit est celui par qui nous recevons tous les bienfaits du salut parce qu'il nous unit au Christ. C'est ce qui est admirablement mis en lumière au début du troisième livre de l'Institution chrétienne. Le Christ nous a tout acquis, il est le chef de l'humanité nouvelle, et pour en profiter, il faut être uni à lui, pour que les grâces découlent de lui jusqu'à nous. Or, c'est là l'office du Saint-Esprit, que de nous unir à lui. Donc il a une mission distincte, qui est articulée avec celle du Fils, ça correspond très bien à l'équilibre trinitaire. Mais je reste quand même un petit peu sur ma faim avec ce que Calvin dit du Saint-Esprit, dans la mesure où il n'en dit pas beaucoup plus que ça. Sa formule la plus fréquente à propos du Saint-Esprit, c'est la vertu secrète du Saint-Esprit. Vertu veut dire puissance. Il est conscient que pour que nous bénéficions des bienfaits que le Christ nous a acquis, il y a besoin de cet X que l'Esprit intervienne. Alors il le pose, mais en disant ça reste mystérieux, secret, et il dit donc simplement vertu secrète du Saint-Esprit. Je pense que c'est quand même un peu court par rapport aux données sur la mission distincte de l'Esprit et ses appropriations dans le Nouveau Testament. Et à cet égard, le complément a été apporté par le piétisme et les réveils. Le piétisme, le puritanisme de ligne réformée dans le monde anglo-saxon, et les réveils qui en sont issus, et qui sont quand même à l'origine du mouvement évangélique dont nous sommes les héritiers, a mis l'accent sur l'œuvre distincte de l'esprit. Je pense que cela est assez évident, historiquement, mais avec quand même une faiblesse dans cette tradition des réveils, assez souvent. Le lien à la personne du Fils et à tout ce qui se rattache à lui, une seule fois, un seul baptême, n'a pas toujours été fortement mis en valeur. C'est là que je vous suggère une discipline trinitaire. Connaissant la merveille d'unité et de pluralité qui caractérise la triunité divine, il nous convient, il me semble que c'est le moment historique pour ça, de combiner l'héritage monothéiste et christocentrique de la réforme luthéro-calviniste et l'apport qui met davantage l'accent sur l'esprit de notre héritage révivaliste. nous sommes en plein équilibre trinitaire si nous combinons ces deux grands apports. Voilà ce que je suggère comme un profit qui nous aide à saisir tout ce que la méditation du mystère trinitaire peut nous apporter. Voilà ce que je voulais vous suggérer. Et maintenant, je pense qu'il y a du temps encore pour des échanges entre nous.
Alors, très volontiers. Très volontiers. Vous avez ouvert un champ qui mérite qu'on ouvre encore des questions. Enfin, qu'on fournisse. Voilà, est-ce qu'il y a quelques vraies questions?
Oui, question. Une question peut-être tout le monde se pose, que vous avez abordée par la question d'analogie. Comment comprendre, imaginer Père, Fils au niveau de la Trinité? C'est quand même une question qui, pour ma part, me paraît très difficile.
Premier élément de réponse, il s'agit d'un langage analogique. Et même si nous disons que le terme dit analogant est en Dieu, et que c'est le terme analogué qui correspond à notre expérience terrestre, il reste la distance de l'analogie. Ce n'est pas un langage littéral. Nous ne pouvons pas simplement appliquer à Dieu ce qui, dans notre esprit, accompagne les notions de paternité et de filiation. Il faut dire qu'il y a une modification, sans quoi il n'y aura pas d'analogie, mais simplement identité. C'est un langage analogique, et comme pour les autres analogies, c'est l'ensemble du discours dans lequel ces analogies trouvent place, qui nous aide à comprendre la juste façon de les prendre. C'est par d'autres mentions que nous saisissons ce qui convient à la paternité divine et ce qui ne convient pas à la paternité divine dans notre image de la paternité. Illustration qui a une valeur historique très très très, très importante. Pendant un bon bout de temps, au moins 150 ans, les penseurs chrétiens de l'âge patristique ont été bloqués par l'idée que paternité, filiation, engendrement impliquaient un commencement dans le temps. Parce que c'est comme ça, sur la terre, avec notre paternité. Ils étaient donc très gênés, ont cherché des solutions qui étaient des solutions bancales. Certains disaient, il est toujours en Dieu, puis il est sorti, et là, vraiment acquis la distinction au moment de la création. Ça a été la pseudo-solution que, au cours du deuxième siècle, plusieurs ont adoptée. Ils essayaient de garder l'idée de l'éternité du Fils, en disant qu'il était toujours en Dieu, mais alors, en ce moment-là, il n'était pas distinct de toute l'éternité. Et puis, au moment de la création, il pensait surtout en termes de logos, parole, là Dieu parle, alors il est sorti, il est devenu distinct. Et ils essayaient de conserver les deux vérités de l'unité et de la distinction en les répartissant sur deux étapes. Mais c'était une solution radicalement insuffisante. C'est Origène qui a trouvé la solution. Et qui a trouvé la solution grâce à une erreur. Ça fait partie de l'humour de Dieu dans la conduite de l'histoire. Origène a construit, sous influence philosophique, il était platonicien, une doctrine de la création éternelle qui a été condamnée ensuite par l'Église. Ça ne pouvait pas cadrer avec les données bibliques, mais Origène a construit cette idée. À partir du moment où la création a été éternelle, il ne pouvait plus avoir un engendrement, une génération du Fils, qui est un commencement dans le temps, comme ceux qui disaient, bien le commencement de l'engendrement donc du Fils, c'est la création. Et il est venu à une idée de génération éternelle. Une génération qui est dépouillée de ce caractère de commencement dans une séquence, qui est un rapport dans l'être, qui est toujours caractéristique de la circulation de la vie divine. À cause de son erreur sur la création éternelle, il y a eu un déblocage, et il a réussi à séparer la notion de génération, donc de paternité, appliquée à Dieu, de la composante commencement dans le temps. Et ça a été un acquis définitif en théologie trinitaire. On a compris que, quand on dit père et fils, ça n'implique pas un commencement, un début dans le temps. Donc ça, c'est une illustration sur la manière dont on est obligé de corriger ce que l'analogie simplement humaine semblerait impliquer lorsqu'on parle de Dieu. Ça, c'est ma première grande remarque, réponse à la question. Deuxième remarque, je crois beaucoup à cette utilisation concomitante de plusieurs modèles qui nous permet d'approcher progressivement le mystère divin. Nous avons le modèle individuel de l'analogie du Père avec son logos et son souffle pour compléter et, je dirais, contrebalancer l'analogie sociale père-fils. En employant le mot logos, Jean, en quelque sorte, nous dit « Voilà comment comprendre que Dieu a un fils qui est un avec lui. » C'est un peu comme un homme et son logos, le verbe intérieur qui est son intelligence, ce qu'il conçoit. L'utilisation du terme analogique logos sert à contrebalancer celle du titre de fils, et en utilisant les deux en même temps, nous sommes à peu près dans la zone qu'il faut. Cela est très important dans le dialogue avec l'islam, parce que le scandale des musulmans devant ce qu'ils croient comprendre du message chrétien, c'est précisément l'idée d'une paternité tout à fait à la manière humaine, et donc d'un fils qui est un autre Dieu produit par un usage de la sexualité, souvent avec l'idée que c'est Marie qui est la mère à ce moment-là, une trinité où le troisième terme c'est Marie. C'est comme ça que les musulmans comprennent, et ils sont scandalisés. C'est en effet incompatible avec le monothéisme. Donc, dire « mais c'est en tant que logos qu'il est le fils », c'est un langage analogique qui nous est interprété à l'aide de ce terme de logos quand on l'évangile de Jean, je crois que ça débloque la situation aussi dans le dialogue avec les musulmans. Surtout que dans le Coran, il est appelé une parole et un esprit. Jésus, s'il dit ça. Donc, il y a un point d'accrochage, il reste loin encore de la foi chrétienne, mais il y a un point d'accrochage qui peut permettre de démonter certains malentendus qui sont intéressants. Voilà quelques remarques, je ne prétends pas tout résoudre, mais... Excusez-moi. Premièrement, dans mon dernier point de cette dernière étude, je suggère une sorte de renversement de l'ordre. Je suggère de voir comment la connaissance de la Trinité nous aide à bien penser le reste. Alors, c'est un pas vers l'intelligence de la Trinité dans la mesure où discerner la fécondité du dogme de la Trinité, voir le bénéfice qu'on en tire, peut nous aider à l'accepter, à dire oui, c'est bien ce que nous devons intégrer dans notre intelligence pour autant que nous puissions. Mais vous voyez, c'est un mouvement inverse. Dans les trois premières démarches que j'ai suggérées cet après-midi, il s'agit d'aider notre intelligence à saisir quelque chose du mystère trinitaire, à nous approcher de lui. Dans la quatrième, on considère ce mystère trinitaire comme un bien qui nous a été donné et on voit à quel point il apporte du bénéfice. C'est donc là l'intention du quatrième, et je ne vais pas faire sortir assez, ça a pu vous gêner dans la compréhension des paroles que je prononçais. Alors, deuxième élément de ma réponse, et là je vais essayer d'être aussi bref. Connaître la vérité trinitaire nous aide à corriger des façons de traiter d'autres sujets qui sont incorrects, qui ne sont pas bibliques, qui manquent à l'équilibre biblique. Lorsqu'on traite le Saint-Esprit comme indépendant de la parole, en fait, on est en désaccord avec le modèle trinitaire, où le Saint-Esprit est absolument un avec le Fils, qui est le Logos. Voilà ce que j'ai voulu suggérer. Oui. Attendez, il vaut mieux que...
Quand vous dites que si on est Saint-Esprit en dehors de... Le Logos, vous considérez que c'est la parole, c'est la Bible?
Alors, je vais préciser les choses. Je pense que c'est la ligne du Logos. Le Logos, c'est la personne du Fils comme principe de toute révélation. C'est parce que le Père a son Verbe intérieur de toute éternité qu'il peut se révéler par une parole qu'il dit par les prophètes, par les apôtres, aux humains. C'est le principe de la révélation par des paroles qui se trouvent dans la vérité trinitaire du titre de parole donné au Fils. Et cela me semble, je n'ai pas eu le temps de l'exposer, je l'avais un peu annoncé hier, donc je le fais maintenant. Cela se trouve à la fin du prologue de l'évangile de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Père. Le Dieu Fils unique, le Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père. Vous voyez, de nouveau, c'est ce paradoxe. Il est Dieu, et en même temps, il est distinct. Il est distinct par son titre de Fils unique, et il est distinct par le fait qu'il est dans le sein du Père, mais dans l'intimité du Père. Et celui qui nous l'a fait connaître, c'est le Verbe qui a donné le mot exégèse en français, exegesato, qui il nous en a fait l'exégèse. Il est le Dieu Fils unique en tant qu'il est distinct du Père, tout en étant un avec le Père. Il est Dieu, seul engendré, Fils unique, et dans l'intimité du Père, il est capable d'être le principe d'une révélation qui nous fait connaître le Père. Nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui voit Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu Fils unique, peut apprendre à connaître Dieu. Donc, le Logos est une personne, et le titre lui est donné dans un sens surimminent, mais il est le principe d'une expression par le mode de la parole de Dieu dans l'histoire. Alors, ces expressions ont été multiples, mais celle que Dieu a voulu conserver pour notre édification, pour servir de fondement à la foi de toutes les générations, sont contenues dans l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, ce n'est pas toute la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que Dieu a voulu nous laisser comme fondement, le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est la force de la parole de Dieu qui est rendue possible parce que le Fils est Logos qui nous atteint et qui doit être le fondement pour notre foi et notre vie. Et donc il y a une ligne, il n'y a pas donc simple identification de la Bible avec le Logos, mais il y a une ligne de dépendance. Et lorsque l'Esprit est traité comme s'il agissait indépendamment de l'Écriture sainte, cette parole de Dieu pour nous, d'après la volonté de Dieu, en fait, ça représente déjà une tentative de le disjoindre du Logos, puisque l'Écriture sainte, en quelque sorte, c'est ce qui nous vient du Logos. Voilà ce que j'ai voulu dire. Vous saisissez ? Oui, oui, oui. Alors, évidemment, c'est une considération que je vous propose, qui est assez général. Pour établir l'affaire, il faudrait voir toute une multitude de textes qui caractérisent plus spécialement l'œuvre de l'Esprit, le rôle de la parole apostolique qui nous est donnée comme sous la forme de l'Écriture sainte. Là, je suis bien d'accord que la considération générale que je pose, elle est là pour montrer à quel point la discipline trinitaire peut être précieuse, mais elle ne suffit pas à trancher toutes les questions. C'est trop général. Monsieur Carrel.
J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur ce qu'apporte la nouvelle évangélique et les révèle une meilleure perception, peut-être un meilleur vécu à propos de l'esprit. Vous pourriez développer un peu ça, par exemple, que les notes que j'avais dans l'impression que nous devons rester jusqu'à l'entrée en fait, de ce domaine-là.
Oui, 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 en effet, j'ai essayé de ne pas trop dépasser les temps, donc je n'en ai pas dit énormément. Alors, je pense qu'on peut distinguer deux directions. La direction du rapport au catholicisme, à la tradition catholique, d'une part, et la direction qui va vers la tradition réformée, luthéro-réformée, d'autre part. En ce qui concerne le rapport à la tradition catholique, je pense que c'est tout spécialement la personnalité de l'Esprit-Saint, le fait que l'Esprit-Saint n'est pas une substance que canaliserait les sacrements, que le rapport est spirituel, hautement personnel à lui, qui marque l'apport de cette tradition, disons brièvement régionaliste, la tentation de la grande forme catholique de chrétienté a été de traiter l'esprit plus comme un fluide, une énergie, une chose au bout du compte, que comme une personne. Et le terme de canalisation, canaliser les canaux pour les sacrements, a été extrêmement, extrêmement courant dans la tradition. Je pense que l'accent de la tradition évangélique sur la liberté personnelle du Saint-Esprit est un antidote par rapport à cette chosification contre laquelle, alors il faut bien dire que la théologie catholique a beaucoup réagi elle-même au XXe siècle. Ce que je dénonce, je pense, serait dénoncé par pas mal de théologiens catholiques, peut-être tout spécialement dans le renouveau charismatique, mais même au-delà, mais c'est un fait historique pour ce qui a été le catholicisme pendant des siècles. Donc ça, ce serait dans une direction. Il n'en va pas de même en ce qui concerne l'autre direction, vers les églises réformées, parce que, en tout cas, dans la version de Calvin, il n'y a pas canalisation du Saint-Esprit, il n'y a pas cette chosification du tout. Je crois que c'est une lecture incorrecte de Calvin qui parfois veut l'y trouver, mais que ce n'est pas vraiment présent. En revanche, ce qui me semble sous-estimé dans cette tradition, et que la tradition révivaliste met en valeur, c'est d'une part l'importance de la mission propre du Saint-Esprit comme mission d'application des bienfaits de la croix, d'appropriation personnelle de ces bienfaits rendus possibles par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nié dans cette tradition réformée, mais je pense que c'est quelque peu sous-estimé, avec deux raisons principales à mes yeux. Un certain accent sur le décret d'élection divine, considéré comme le décret éternel, l'éternité étant un pur présent. Je mets ensemble ces conditions. Je suis calviniste. Je crois que le décret d'élection est souverain. Mais j'observe dans la tradition calviniste que, à cause de cette souveraine détermination par le choix divin, l'histoire peut paraître ne pas compter tellement. Finalement, tout est décidé par Dieu dans un décret éternel. Et donc, ce qui se passe au niveau de l'existence des humains dans le temps peut être subtilement relativisé. Je pense que ce qui est en déficit, là, ce n'est pas la doctrine de l'élection elle-même, que je crois devoir maintenir bibliquement entière, mais la notion d'éternité qui l'accompagne, qui dévalue la succession des temps. Donc je pense que ça a été une cause de relativisation. La deuxième, et tout est lié à des dimensions plus sociologiques, c'est l'église de multitude. C'est l'a priori que tout le monde, toute la société est chrétienne, que les enfants deviennent membres de l'église par leur naissance et donc reçoivent le baptême comme nourrisson. Il n'a pas été nié qu'il faille une foi personnelle, mais ça a brouillé le message. La distinction que fait l'œuvre du Saint-Esprit entre quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui n'appartient pas au Seigneur, qui n'est pas dans son Église, et puis quelqu'un qui le devient parce que l'Esprit a changé son cœur de pierre en cœur de chair, lui a donné une vie nouvelle, cette distinction, dans le système multitudiniste du christianisme réformé établi, a été au moins brouillée. Et c'est, me semble-t-il, ces deux facteurs, peut-être qu'il y en a-t-il eu d'autres, qui ont fait que l'appropriation personnelle dont le Saint-Esprit est l'agent a été sous-estimée, non pas niée, mais sous-estimée, et la tradition révivaliste, alors, a mis l'accent au contraire sur cette appropriation personnelle. Associé à cela, il y a l'activité diverse de l'Esprit dans l'accomplissement de cette mission. J'ai dit chez Calvin, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est la vertu secrète du Saint-Esprit. Tout se fait par la vertu secrète du Saint-Esprit, puis on ne dit plus rien, parce que c'est secret. Et je pense quand même que dans l'Écriture, il y a beaucoup plus d'indications sur l'expérience de la nouvelle naissance, sur la sanctification comme processus, comme progrès, et que ça a été un point fort du mouvement révivaliste. Et la sanctification, c'est la sanctification de l'Esprit. Par l'Esprit, nous l'avons vu dans le texte trinitaire du début de la première épître de Pierre, la sanctification de l'Esprit. L'accent sur la sanctification a quand même été tout à fait typique de cette tradition, avec Wesley, mais avec d'autres aussi. Et donc, il me semble que nous avons vu là une composante. Et puis, il y a la composante, alors là, ça devient de plus en plus controversiel, éventuellement, des dons particuliers par lesquels le Saint-Esprit permet à cette œuvre de s'accomplir, non pas de façon simplement individuelle, chaque individu considéré pour lui-même, mais dans la communauté. Les divers charismes qui sont des instruments au service de la sanctification, de l'édification de l'Église, et qui sont distribués par le Saint-Esprit. Là aussi, je pense qu'on peut dire que la tradition de la réforme magistérielle a sous-estimé. Et Calvin a fait le choix, assez net, par exemple, de dire que les dons les plus miraculeux, ceux qui attirent le plus l'attention, étaient réservés aux temps apostoliques. C'était des grâces spéciales pour le temps des apôtres et n'ont pas continué par la suite. Alors, je pense qu'il y a une façon malsaine d'insister sur les dons au charisme. Je ne suis pas en train de plaider de manière unilatérale pour une position juste inverse de celle de Calvin, mais je pense que celle de Calvin n'est pas bibliquement soutenable. Et que nous avons là donc aussi un déficit qui concerne la mission du Saint-Esprit dans sa richesse, dans sa variété. Et donc c'est cela qui a trouvé place dans la tradition médiévaliste et qui me semble être le complément que nous pouvons unir avec l'apport de la réforme magistérielle. Ça répond à votre question ? Hélas, si. J'ai bien cette impression, malheureusement. Oui, je pense que c'est une tentation constante. Et si j'ai insisté si fort sur le monothéisme, ce matin, c'est que je sens ce danger présent. De même que le gros de l'humanité a été polythéiste, malgré l'absurdité à quoi ça mène, si quelqu'un essaye d'être rigoureux. J'ai essayé de dire les deux choses. De même, le trithéisme tente les chrétiens les plus authentiques, sans qu'ils s'en aperçoivent, sans qu'ils se rendent compte de la gravité de la chose. Et donc, ils ont une certaine tendance réellement à parler du Fils et à s'adresser au Père, au Fils, à l'Esprit, comme s'il s'agissait de trois dieux. Ce qui est exclu, ce qui est profondément anti-biblique. Là, je pense que le danger est présent.
Et pratiquement, qu'est-ce que vous diriez à des pasteurs qui ont cette impression-là, ou à des responsables d'église qui peut-être ne peuvent pas reconnaître leur communauté ?
Je l'ai fait un petit peu tout à l'heure aussi. Je pense qu'un des leviers aujourd'hui concerne le face-à-face avec l'islam. Montrer à quel point ces apparences de trithéisme sont un scandale pour l'islam, et un scandale à juste titre, ça peut aider à montrer qu'il faut en effet réformer nos façons de dire ou de donner des impressions. Donc, ça c'est un moyen qui peut avoir une certaine efficacité. Je crois que dans nos églises, le souci du témoignage, le souci au témoignage à ces si nombreux voisins musulmans que nous avons maintenant, est présent. Et donc, ça peut toucher. Ça, c'est au moins une chose que je pourrais dire. Je souhaite aussi... Alors là, c'est bien par, plutôt par rapport à la théologie académique du temps présent. Je souhaite marquer ce que j'ai de nouveau essayé de marquer avec vous, qu'il y a adultération radicale du sens de la Trinité biblique quand la deuxième personne de la Trinité, c'est l'homme Jésus en tant que tel. Cela... Je dirais que ça correspond principalement à l'interprétation hegélienne. C'est très tentant. Je l'ai entendu de la bouche de Ricoeur quand je suivais un cours de lui. C'était plus ou moins attribué à Karl Barth. Je n'ai pas retrouvé la formule même chez Karl Barth. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais en gros, la pensée quand même en substance. Du point de vue chrétien, l'œuvre de Hegel correspond à la plus grande tentative Farouk. C'est le premier philosophe qui prend les dogmes spécifiques du christianisme, d'abord celui de la Trinité, puis de l'incarnation, pour les exploiter philosophiquement, pour en faire l'articulation même de sa philosophie. Donc, la plus grande tentative, mais c'est aussi la plus grande tentation. Farouk. Parce que, en fait, le sens même de ces deux mystères révélés est radicalement altéré. C'est finalement l'homme qui est divinisé, Dieu qui est considéré comme se faisant dans son rapport au monde, évoluant par thèse, antithèse et synthèse, avec le monde. Donc, la transcendance du Dieu biblique, sa souveraineté, sont radicalement liées. Nous sommes en présence d'une pensée qui est profondément incompatible avec l'Évangile. Je me suis laissé dire un certain nombre de fois, là c'est ma façon de dire les choses, que nous sommes en présence de la pensée d'Antichrist. L'Antichrist s'oppose au Christ en le singeant. C'est la pensée qui a les apparences de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. En philosophie, il n'y a pas de philosophie qui ait été aussi chrétienne d'apparence que celle de Hegel. Et elle est un profond reniement du sens même de l'Évangile. Donc, pensée d'Antichrist. Qui exerce une influence très forte jusqu'à nos jours. François Châtelet, le philosophe de l'Université de Vincennes, disait « Hegel est notre Platon ». Comme Platon, pour des siècles et des siècles, a été le philosophe de référence, c'est Hegel pour nous. Hegel qui a inspiré Marx, bien sûr, etc. Madame.
Une question par rapport à notre Eugène Vita Passer, j'ai une question par rapport à la façon dont elle parle de Jésus. Est-ce que vous pourriez me donner une réponse?
Malheureusement non, parce que je ne la connais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas lu ses livres. J'ai juste commencé le plus ancien, quelques pages, j'ai pas eu le temps d'investiguer davantage, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne peux pas vous dire, malheureusement.
Si je peux me permettre de revenir au stade précédent. Sur l'élaboration du dogme,
oui.
Vous nous avez dit que donc, la pensée patristique s'était élaborée en opposition à la pensée grecque, à la pensée platonicienne. Alors, dernièrement, j'ai lu deux des trois volumes de l'ouvrage de Nguyen, Eros et Agapé.
Oui.
Alors, il me semble qu'à titre individuel, d'après lui, parmi ces auteurs, il y a peu de théologiens de la période patristique qui n'aient pas succombé, au moins partiellement, à l'attrait de la pensée platonicienne ou néoplatonicienne. Mais il me semble qu'il y a quand même une analogie entre les catégories de indo-européenne et qui pense souvent en termes ternaires. Je pense à Dumézil ou bien à Lévoff. Alors forcément, il y avait un ami qui est missionnaire au Laos et qui anime une revue de missiologie. Que devient le dogme de la Trinité quand il s'élabore dans des espaces culturels, on pensait à la Chine, qui n'ont pas cette structuration ternaire de la société, par exemple, ou dans la pensée. Je me demande s'il n'y a pas une explication là du fait que le christianisme qui a d'autrefois en Chine était, aux yeux des Occidentaux,
il y a, me semble-t-il, deux grandes questions dans ce que vous avez soulevé, et je suis loin d'être capable de bien répondre à aucune de ces deux questions, mais je tente de dire quelque chose quand même. En ce qui concerne les pères de l'Église et le platonisme, je souscris entièrement à la thèse que vous avez résumée. Nigraine a été un point assez important pour façonner ma pensée dans mes jeunes années, relativement jeunes années, donc il y a longtemps. Et je crois qu'il a raison de souligner le platonisme des pères de l'Église, dans leur grande majorité. Il n'y a pratiquement que Tertullien qui s'en soit nettement démarqué, qui l'ait nettement refusé. Mon avis, cependant, c'est qu'ils ont tenu bon contre les façons de penser platoniciennes et néoplatoniciennes, précisément sur la Trinité et en Christologie. De nouveau, en simplifiant et en schématisant à l'extrême, je dirais qu'ils ont consacré toute leur énergie, parce qu'ils se rendaient compte que l'Évangile était en cause, ils étaient foncièrement attachés au Nouveau Testament. Ils se sont rendus compte que le dualisme dépréciateur du corps et de la matière, qui était exacerbé chez les gnostiques, mais présent dans le platonisme même, que cela était incompatible avec le donné biblique. Ils se sont battus contre tout élément de polythéisme et de dualisme, et donc, là où ils voyaient qu'il fallait combattre, ils se sont battus en Christologie et avec la Trinité comme conséquence. Et à mon avis, ils ont là été fidèles, toujours réunis dans le détail. Ils ne se sont pas rendus compte que sur les autres sujets, et en particulier la conception du salut, alors là, ils abandonnaient le terrain biblique. Ce n'était pas le lieu du combat, et au lieu de l'expiation du péché une fois pour toutes, et donc de la colère de Dieu, de la justification du pécheur, comme c'est au centre de la Bible, ce qui est devenu central pour eux dans les questions de sotériologie, de doctrine du salut, c'était comment la chair peut s'accorder avec l'esprit, comment elle peut être élevée jusqu'au niveau de l'esprit et divinisée. C'était là que le platonisme les a détournés, ils ne s'en sont pas aperçus, parce qu'ils voulaient être bibliques. Mais ils ont combattu sur les dents que nous avons considérées aujourd'hui, alors que donc la déviation due au platonisme, je trouve qu'elle s'est produite ailleurs. Et foncièrement, c'est comme ça que j'interprète ce que j'estime avoir été une dérive dans l'ensemble appelé habituellement catholicisme. En ce qui concerne les pensées d'Extrême-Orient et d'autres parties du monde, d'autres grandes civilisations. Et d'abord, je ne suis pas expert, du tout. Et en deuxième lieu, je doute que l'importance de schéma ternaire dans l'ensemble indo-européen ait joué un rôle si important. Je n'ai pas tellement l'impression. Déjà, bon, le domaine sémitique n'est pas probablement indo-européen. Certes, il y a des éléments ternaires, les trois offices christiques, par exemple, aussi en Israël. Donc, je ne nie pas qu'il y ait des triades là, prêtres, rois, prophètes, les trois offices. Mais je n'ai pas l'impression qu'un type de logique ternaire ait joué un rôle si important. Je sais qu'en tout cas, dans l'hindouisme, il y a une triade à laquelle on a souvent comparé la Trinité. Alors, je pense que c'est une comparaison qui peut être trompeuse, mais la Trimurti hindoue. Donc là, c'est quand même déjà l'Orient. Donc c'est indo-européen, c'est vrai. Alors, je vous avoue que je n'en sais pas assez sur la pensée chinoise pour vous donner des compléments de remarques à ce propos. Je crois qu'une partie du problème a été que les missionnaires qui ont fait connaître le christianisme en Chine, en tout cas une partie, étaient des nestoriens qui étaient hérétiques en christologie, qui séparaient la personne du Christ et qui ne reconnaissaient pas l'unicité de la personne autant qu'en tout cas qu'il l'aurait fallu. Les pensées proprement chinoises, pour autant que j'en sache quelque chose, que le lecteur de quelques ouvrages sont de tendance panthéisante assez, assez nette. C'est vraiment la voie qui paraît choisie. Soit dans la tendance taoïste, le panthéisme avec équilibre de principes jumeaux et complémentaires, positif, négatif, masculin, féminin, etc. Soit dans des formes dérivées du bouddhisme aussi. Dans le confucianisme, c'est plus une morale, c'est plus une politique conservatrice qui sauvegarde la société qu'une vision très religieuse, me semble-t-il. Voilà tout ce que je suis capable de dire sur le sujet que vous avez abordé.